Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Tariq Krim. Bonjour Tariq.
Bonjour.
Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Paul Amar.
Bonjour tout le monde.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et Hervé Schauer.
Bonjour.
Alors Tariq, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Oui, très bien. Mais écoutez, j'ai plusieurs casquettes. Je suis plutôt connu pour avoir été un entrepreneur du web, ce qu'on a appelé le web 2.0, avec notamment deux entreprises, NetVibes et Jolly Cloud. NetVibes, c'était une page d'accueil personnalisée qui était un peu une des pionnières des flux RSS. Et Jolly Cloud, c'était un operating system basé sur du web et un ordinateur qui s'appelait le Jolly Book. Donc, c'était une sorte d'alternative libre au Chromebook. J'ai également eu d'autres casquettes, donc j'ai été vice-président du Conseil national du numérique, donc depuis une vingtaine d'années j'essaye de travailler avec les différents gouvernements pour s'assurer qu'il y ait une politique numérique. Et puis avant ça, j'ai fait plein de choses, j'ai beaucoup bidouillé au tout début de l'Internet et j'ai été aussi journaliste, notamment pour Radio Nova, La Tribune, et j'ai été aussi pendant 6 ans en Californie, dans la Silicon Valley, où j'ai travaillé pour une société qui n'était pas vraiment une start-up à l'époque, qui s'appelait Sun.
Alors justement, oui, tu es très connu pour les aspects que tu viens d'évoquer, tu es moins connu pour les aspects cybersécurité, et pourtant, tu t'intéresses depuis pas mal de temps à la cybersécurité. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ce domaine ?
En fait, je crois que comme beaucoup de gens, l'informatique était quelque chose de fascinant. Alors, moi, mon premier contact avec un ordinateur, ça a été en 78. J'étais invité à une sortie d'école et on allait à un salon scientifique. Et il y avait, je crois, un labo du CNRS qui montrait une innovation incroyable. C'était un terminal informatique. On tapait des choses dessus et quand on appuyait sur la touche entrée, l'ordinateur se mettait à parler avec une voix très robotique. Donc, c'était vraiment les prémices. Et j'étais complètement fasciné par ça. Et donc, dès que la personne a eu le dos tourné, la première chose que j'ai faite, c'est taper mon nom. Et au moment où j'allais appuyer sur la touche entrée, je sens quelqu'un qui me tire l'oreille et ça fait très mal. Et c'est la prof qui me regarde et me dit « Ne touchez à rien, vous allez tout casser ». Et l'ingénieur qui était là, à l'époque, il faut voir que les ingénieurs avaient des blouses blanches, a regardé ce que j'avais fait et avait vu que j'allais en fait juste taper mon nom pour faire parler la machine. Et il m'a regardé avec un gros sourire. Et pour moi, ce sourire, ça voulait dire « Bienvenue au club ».
Est-ce que ce salon, c'était le CICOB, par
non,
hasard
c'était, Non, j'ai été après, évidemment, au CICOB. On allait tous au CICOB pour récupérer les numéros d'utilisateurs internationaux pour ne pas payer le téléphone. Mais à l'époque, mais c'était un salon, je crois, scientifique. Enfin, j'ai malheureusement perdu de vue. Et c'était fascinant parce que ce qu'il faut bien comprendre à l'époque, c'est que l'informatique donnait c'était très sérieux. Les gens étaient habillés comme des scientifiques. Il y avait toute une organisation avec des pupitreurs, des analystes, il y avait vraiment une espèce d'organisation très complète. Et quelques années plus tard, mon père a amené en 1982 un Apple II avec un modem et on a eu une chance qui a été extraordinaire pour moi, c'est qu'il avait un abonnement à un service en ligne américain qui s'appelait The Source. Il y avait The Source et CompuServe, c'était en fait ce qu'on appelait des banques de données, donc qui permettaient d'accéder à des services en ligne. Et un an plus tard, on a fait partie dans le 4e arrondissement des premières expérimentations de Minitel. Et donc, à partir de là, j'ai eu un peu le meilleur des deux mondes. Il y avait le monde français du Minitel qui était en train de bourgeonner et le monde international où on pouvait se connecter à des banques de données. Et comme je l'expliquais récemment dans un article, c'est là que j'ai découvert l'existence d'une agence secrète qui travaillait sur les écoutes électroniques, qui s'appelait National Security Agency, ce qui est un livre et un documentaire qui est sorti, qui s'appelait Puzzle Palace. Et La même année, j'ai découvert l'existence d'un groupe allemand qui s'appelait le Chaos Computer Club, avec notamment Vo Holland, qui avait une vision hyper politique du numérique, et à laquelle évidemment je suis tombé immédiatement amoureux de cette vision. Information wants to be free, la technologie doit aussi servir comme contre-pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était la guerre froide, donc on avait des grandes puissances nucléaires, et une sorte de fatalisme à cette dualité, et on avait ces hackers qui était un peu le grain de sable qui, grâce à l'usage de la technologie, pouvait apporter une vision différente, plus positive de la technologie. Et donc, évidemment, très tôt, je me suis intéressé à ça, je me suis intéressé à la question de la sécurité informatique, à regarder un peu ce que les hackers aux États-Unis faisaient, notamment Sorcerer of the ARPANET, qui était un peu le groupe ultra connu à l'époque. Et puis ensuite, j'ai, comme plein de gens, j'ai un peu bidouillé, exploré le réseau. Et puis cet état d'esprit est resté. Enfin, je pense que quand on touche à l'informatique et qu'on s'intéresse à la bidouille, ce que je pense que tous les auditeurs comprennent, quel que soit son âge, à un moment donné, c'est un état d'esprit qu'on a envie de cultiver.
Et donc, tu étais assez actif dans les années 80-90.
80, j'étais très jeune. Moi, je regardais surtout des gens. Il y avait une culture de la sécurité informatique très intéressante en France. Tu avais à la fois les crackers, donc les gens qui pirataient, qui déplombaient, pour être précis, les disquettes. Il y avait les bidouilleurs spécialistes du Minitel. Et puis, il y avait des gens qui s'intéressaient à l'exploration des réseaux internationaux, parce qu'il y avait... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est avant que l'Internet devienne l'interconnexion de tous les réseaux sous le même protocole, il y avait des dizaines, voire des centaines de réseaux. Il fallait acheter en fait un bouquin qui s'appelait The Matrix, qui était que j'avais pu acheter à Paris, à Brentano's, qui était la librairie franco-américaine, où il y avait un annuaire de tous les services pays par pays. Et donc, il fallait trouver des points d'entrée.
Oui, mais il faut... Ouais. Il ne faut pas que les gens fantasment. C'était des réseaux sur lesquels il y avait souvent juste un service d'échange de messages.
Exactement.
Hein, et voilà. Alors évidemment, on est bien avant TCP/IP, on est avant RFC 822, mais il y avait déjà des réseaux d'ordinateurs qui s'échangeaient des messages.
C'est exactement ça.
C'était tout ce qui était BBS et tout ça. Enfin.
Non, c'était les trucs professionnels, ouais. Comme Bitnet, les messages. Messagerie pré-X400. Par exemple, tous les multix du monde étaient interconnectés.
Exactement.
Et tu pouvais échanger des messages entre multix. Les IBM étaient interconnectés avec Bitnet. Ouais. Donc, c'était par système d'exploitation, par protocole. Et puis, les Unix avaient UCP.
Exactement.
Et donc, tous les Unix du monde ont commencé à s'interconnecter avec UCP au travers de lignes spécialisées, de lignes téléphoniques, même avec des modems 1200 baud, ça marchait, au travers alors en France, de lignes Transpac, mais enfin, ça coûtait cher. Voilà. Et c'était les réseaux qui étaient avant Internet.
C'est super intéressant ce que tu dis, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y avait des réseaux qui utilisaient des technologies, donc des systèmes d'exploitation propriétaires, souvent assez peu documentés, puisque les documentations n'étaient pas... Il n'y avait pas les livres O'Reilly ou toute la documentation qu'on peut trouver aujourd'hui sur l'Internet. Et donc, une des techniques que les gens avaient pour apprendre, c'était soit d'aller faire les poubelles des centres de recherche ou de Jussieu pour trouver les manuels. Parce que quand on achetait 50 stations de travail, évidemment, on ne regardait pas 50 manuels. Donc, il y en avait une partie qui partait à la poubelle. Et donc, on était évidemment... très intéressé pour accéder à tout ça, mais surtout chacun des réseaux avait des systèmes d'exploitation dont certains avaient des bugs particuliers, notamment, je ne sais pas si tu te rappelles, avait les VAX, le système VAX était très perméable et donc il y avait plein d'astuces qui circulaient qui permettaient aux gens
VMS était un bon système, il était particulier, mais on retrouve aujourd'hui des tas de choses de VMS dans l'iOS de Cisco. On voit que les développeurs sont passés de digital à Cisco
oui, bien sûr.
À la fin des années 80, au début des années 90.
Mais il y a eu une période où il y avait certains trous de sécurité.
Il y a eu une période où, j'ai connu les Prime OS, mais les gens ne peuvent pas comprendre, parce que dans les années 80, sur un système Unix accessible sur le réseau Transpac en X25, il y avait une fonction PAD qui correspond au Telnet sur TCP/IP. Mm-hmm. Ce que les gens peuvent pas comprendre, c'est qu'il y avait toujours un compte guest. Et donc, on pouvait se connecter sur le compte guest, mot de passe guest. À la rigueur, en France, ils avaient mis invité comme mot de passe. Et en étant sur ce compte, on pouvait écrire à l'administrateur en disant, ah, il est super, votre ordinateur. J'ai vu que vous avez l'OLISP version truc. Est-ce que je peux avoir un compte? Et on avait un compte. Et on avait un compte que ce soit au Gréco de programmation à Bordeaux, au Cerfax, enfin n'importe où, c'était invraisemblable. On ne peut pas comprendre aujourd'hui le fonctionnement des réseaux et de l'informatique des années 80 quand on est né dans les années 90 ou 2000. C'est impossible.
Alors juste tu faisais quoi avec ce compte, Hervé, une fois que tu avais ce compte? Parce que moi, depuis tout à l'heure, je me demande en fait, mais à quoi ça servait en fait? Tu parlais d'échange de messages, ça reste un peu énigmatique. C'était quel type de message?
Non, mais moi ça me servait à pouvoir compiler des binaires sur absolument toutes les architectures possibles et imaginables pour potentiellement en faire un usage sur lequel il y a prescription.
Et toi, Tariq?
Moi, j'étais plus jeune. Moi, j'étais dans toute cette génération de gens que j'ai adoré, et puis que Hervé connaît bien aussi, qui avait quelques années de plus que moi. Moi, ce qui me fascinait, c'était la découverte, l'exploration. Alors, je voulais juste préciser qu'effectivement, il y a deux formats. Dans le monde professionnel qui existe, c'est X25 qui était plutôt sponsorisé par le département du commerce américain et donc qui a donné un ensemble de réseaux aux États-Unis. La France, avec le Minitel, est l'implémentation la plus réussie puisqu'on a offert un terminal gratuit. On est allé jusqu'à plusieurs millions de Français qui avaient ce terminal. Et tu avais TCP/IP qui était essentiellement des réseaux militaires et universitaires et qui était complètement séparés ou difficilement accessibles, même s'il y avait des passerelles entre les réseaux commerciaux et l'Internet. Et puis à côté de ça, tu avais des BBS. Et les BBS qui étaient fascinants, c'est... Il y a d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, un excellent documentaire en plusieurs parties qui s'appelle BBS, justement, qui raconte l'histoire, où des gens ont installé à travers leur micro-ordinateur ou parfois de manière semi-professionnelle avant les ISP, donc des services qui offraient évidemment... des comptes partagés, des systèmes partagés où on avait des systèmes de messagerie interne, parfois du téléchargement de petits logiciels, parce qu'à l'époque, le téléchargement, c'était pas comme aujourd'hui, ça prenait beaucoup de temps, et souvent des interconnexions vers d'autres réseaux. Et ce qui est intéressant, et ça je passe ton contrôle Hervé, parce que c'était une des légendes urbaines à l'époque, c'est que le spam venait aussi du fait que comme les ordinateurs se téléphonaient les uns les autres pour distribuer le courrier, les ordinateurs, donc quand on se connectait à un autre service, on payait la connexion, ou en tout cas on aux États-Unis le système est un peu différent, on ne paye pas les communications locales, on paye les communications entre États. Mais c'est vrai que quand on mettait des messages non désirés, ça veut dire qu'on obligeait les propriétaires de BBS à transporter des messages non désirés. Et donc, à l'époque, il y avait une sorte d'étiquette, de netiquette, qui permettait de dire que finalement... il fallait être très bref, on avait... c'était la même chose d'ailleurs sur les newsgroups.
Mais sur Transpac, on payait à l'octet transporté, donc ouais. La taille des données comptait énormément. Alors, mais bon, pour avancer un peu dans le temps...
Bien sûr.
Pourquoi tu t'es intéressé à la sécurité informatique dès les années 90 et les débuts d'Internet?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour moi, dès le départ, l'Internet est quelque chose de politique. Enfin, le numérique et la technologie est quelque chose de politique. C'est-à-dire que il y a quelque chose de fascinant parce que moi, c'est ce qui m'a surtout, ce sur quoi j'ai beaucoup expérimenté. Alors, il y a aussi prescription. C'était ce qu'on appelle le phone freaking, c'est-à-dire comment ne pas payer le téléphone ou comment manipuler manuellement des réseaux téléphoniques et ce qu'on appelait des commutateurs, ce qui maintenant sont totalement virtualisés, mais qu'on pouvait avant manuellement interconnecter. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce qui est drôle, c'est que tout ça aujourd'hui, les gens nous regardent avec des yeux écarquillés puisque le téléphone est gratuit, avec cette idée qui était que dans un monde, encore une fois, bipolaire, avec d'un côté l'Union soviétique et de l'autre les États-Unis, il y avait cette vision finalement assez humaniste de la technologie qui est de dire il faut qu'on reconnecte les gens, que les gens se parlent, que l'information doit être partagée. Et ça, c'est, pour moi, c'est très important parce que j'ai toujours pensé qu'on nous parle toujours de la culture américaine, qui est une culture finalement de la Silicon Valley pour la côte ouest, ou la culture scientifique MIT sur la côte est. Mais il y a une culture européenne qui, pour moi, a toujours été une culture très humaniste. Et quand on sait que le web et l'Unix sont et plein d'autres choses d'ailleurs dont on pourrait parler, sont inventés en Europe et sont donnés au reste du monde. Pour moi, ce n'est pas une erreur de parcours, ou c'est dans la continuité, effectivement, d'un ensemble de gens qui ont à la fois bidouillé, construit, mais qui ont aussi compris que l'Internet est quelque chose de politique. Et donc, la question de la sécurité informatique, c'était pour moi, au-delà du défi personnel du hack, ça allait devenir une question politique. C'est comment, si cette technologie est dans les mains de tous, comment on se protège? Comment on se protège des États avec la cryptologie et les chiffrements, qui était un gros sujet au début de l'Internet? Et comment on se protège et comment on protège les États? Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné.
Est-ce que tu as toujours ton sifflet Cap and Crunch?
J'en ai un, qui est un collector, mais comme les fameuses Blue Box. Mais c'est des systèmes qui ne marchaient pas en France, comme tu sais, nous on avait Numéris. On l'oublie, et c'est ça aussi qui, moi, me pousse régulièrement on me dit souvent, je suis un défenseur de la souveraineté numérique, certes, mais je suis surtout un défenseur de l'excellence numérique à la française, qui existe depuis très longtemps, où on a des gens qui ont su faire avec peu de moyens des choses qualitatives, et on oublie à quel point, à chaque fois qu'on a voulu s'y mettre, on a fait des choses qui étaient incroyables. Techniquement, je trouve qu'on a un savoir-faire. Le réseau téléphonique français a été excellent dans les années 80 par rapport à d'autres pays. Le réseau Minitel X25, même s'il n'était pas ouvert, même s'il était très top-down, même si ce n'était pas du TCP/IP, la qualité, le terminal était entièrement fait en France. Les routeurs, les câbles, toute l'infrastructure end-to-end était fabriquée en France. Et aujourd'hui, quand on nous dit on ne sait plus fabriquer d'OS, on ne sait plus fabriquer d'électronique, on ne sait plus fabriquer de routeurs, il fut un temps où on savait faire tout ça. Et si on ne sait plus le faire, c'est qu'on a, et ça c'est un autre sujet, des gens qui n'avaient plus du tout cette vision de la compréhension de la technologie et de l'excellence, qui sont au contraire partis dans... on va acheter ce qui se fait de mieux, entre guillemets, donc ce qui n'est pas français, ou on va vendre tout ce qu'on sait faire. Donc on a vendu Alcatel, on a vendu Thomson, on a vendu toutes ces boîtes dans les années 90, et aujourd'hui on se retrouve complètement plombé puisqu'on est dépendant des technologies des autres.
On a complètement perdu notre avance ?
Non, mais il s'est passé deux choses en fait, et ce qui sont très intéressantes. Dans les années 90, on a un ensemble de gens, notamment certains qui sont toujours là, des grands patrons, qui ont dit on va arrêter de fabriquer en France. Alors parfois c'était parce qu'on trouve que le droit social est trop compliqué et ça sera plus simple en Chine. Et donc on a délocalisé. Il ne faut pas oublier que la France était leader dans l'électronique grand public, Thomson, l'Europe aussi avec Philips. Il ne faut pas oublier que Philips, c'est ASML et TSMC, ces deux boîtes qui sont essentielles, l'une pour la lithographie et l'autre pour la construction de toutes les puces, notamment les Nvidia. Ça, c'est des boîtes...
Oui, mais autant ASML, c'est néerlandais, TSMC, c'est taïwanais.
Oui, mais ça a été financé à la base par Philips. Ce sont leurs...
Oui, alors tu veux dire, c'est un... Voilà, ça vient de l'historique Philips.
Voilà, y compris NXP en Allemagne. Donc, on avait une vraie avance. Dans les télécoms, on était excellents. Dans les téléphones mobiles, tenez-vous bien, dans les années 90, on fabriquait un téléphone sur trois. Mobile était fabriqué en France. Et puis, ces gens ont tout envoyé en Chine. Le problème, et qu'on connaît quand on est ingénieur, c'est que quand on ne fabrique pas, soi-même, on perd la capacité à fabriquer. Et donc, il s'est passé ce qui, à mon avis, a été le début d'un désastre, c'est que la France, qui avait d'excellentes écoles d'ingénieurs dans plein de domaines, électronique, microélectronique, embedded, optique, etc., etc., ben, ces ingénieurs, ils bossaient dans les boîtes pour faire les produits en France. Et le jour où on a fait les produits en Chine, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là se sont mis à faire de la finance, du conseil, à faire d'autres choses. Et puis, il y a eu un...
Mais il suffit de discuter avec les profs de quelques écoles d'ingénieurs qui se désespèrent. Mmh. Ils sont obligés de remplir avec des ingénieurs étrangers. Enfin, quand tu fais de l'électronique, ils sont obligés de remplir avec des ingénieurs étrangers. Il n'y a plus aucun Français qui veut faire leur enseignement puisqu'il n'y a plus aucun débouché.
Exactement.
Et en tout cas, pas assez.
Et à côté de ça, il y a eu un deuxième sujet sur lequel on était beaucoup plus discret et qui, à mon avis, devrait être un vrai scandale, c'est qu'on a eu une dénumérisation. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, dans les années 90, on a dit, en fait, les informaticiens ne servent plus à rien. On va virer les informaticiens. D'ailleurs, moi qui sortais dans les années 90, toute la génération de gens que je connaisse, on leur disait, mais faites pas de l'informatique, c'est fini. Faites du conseil, faites autre chose. Et donc, on a délocalisé aux ESN, qui s'appelaient à l'époque des SS2I, qui elles-mêmes ont délocalisé à Madagascar, au Maroc, au Pakistan, en Inde, etc. Et donc, soudain, on s'est retrouvé avec à la fois l'État et les grandes entreprises qui n'ont plus d'ingénieurs informatiques. Les meilleurs ingénieurs informatiques que je connaisse sont tous partis dans la Silicon Valley. Moi, c'était la grande découverte dans la Silicon Valley quand je suis arrivé au milieu des années 90. Et j'ai découvert que dans toutes les boîtes, Netscape, Sun, Apple, il y avait des Français qui étaient extrêmement bons. Quand je suis arrivé, toute l'équipe qui avait fait le fameux Thomson TO7 du programme informatique pour tous, c'était l'équipe qui m'a accueilli quand j'étais dans la vallée. Et ils étaient exceptionnels, mais ils n'avaient plus de valeur en tant que... Leur valeur ingénierale et informatique était absolument pas valorisée en France, alors qu'aux États-Unis, c'était des demi-dieux. Et donc, au moment où toutes ces boîtes ont viré leurs informaticiens, il y a des boîtes comme Google, Apple et les autres qui ont compris que la valeur d'une boîte, c'est ses produits et c'est son software. Aujourd'hui, la valeur de Google, c'est le software. Et donc, on s'est retrouvé à être à rebours de deux choses. Et donc, aujourd'hui, on a, je dirais, la pire des solutions, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... on n'a pas de vraie boîte de software. On en a une qui est Dassault Systèmes, mais qui est quand même spécialisée dans un domaine. Et on n'a plus d'autres boîtes de grande taille. On a des acteurs spécialisés comme OVH, mais dans l'hébergement pur, plus qu'à mon avis dans le software. On a plein de gens dans la cyber, mais qui sont des boîtes de petite taille comparées à ce qui se fait ailleurs. Et on n'a pas cette culture des entreprises dont la valeur dépend directement des développeurs et des informaticiens et de leur capacité à s'adresser sur les marchés globaux. C'est un domaine qu'on a perdu et c'est pour ça que je crois que pour répondre à la question « est-ce que c'est trop tard ?», je ne le crois pas. Mais il faut qu'il y ait une vraie compréhension que l'industrie, la réindustrialisation numérique de la France passe par le software. Passe par la maîtrise de ça et la constitution de filières en cybersécurité. Par exemple, on a des gens qui sont brillants, mais je ne pense pas que le système actuel leur permette d'avoir le maximum de valeur qu'ils pourraient avoir et d'atteindre la taille de marché critique. Alors que dans d'autres pays...
Ça, tu le vois quand tu fais des analyses de risque, tu vas voir les gens dans les entreprises et tu leur demandes qu'est-ce qu'on peut arrêter et qu'est-ce qui est critique. Et en fait, tous les gens que tu vas voir te disent « moi, je suis critique ». Tu vas voir le comptable, il dit « je suis critique ». Tu vas voir le juriste, il te dit « je suis critique ». Et donc, en fait, maintenant que les entreprises ne sont plus dirigées par des ingénieurs, mais par des financiers ou par des... Voilà, ils considèrent que c'est la fonction finance qui est critique, en fait, dans l'entreprise. Mais si les boîtes étaient dirigées par des ingénieurs, comme c'était encore le cas chez Google ou chez Apple il n'y a pas si longtemps, ou SunOS, qui était une pure boîte d'ingénieurs, là, effectivement, ils considèrent que le software et le produit logiciel est critique.
Pour nos auditeurs, SunOS, ça a été racheté par Oracle.
Oui. Et qui a immédiatement attaqué Google sur Java. C'était une demande de Steve Jobs. Bon.
Résultat, Java, au revoir.
Ouais. Mais ce qui est fascinant, c'est que on parle jamais, par exemple, moi j'aime beaucoup François Jernel qui a créé le premier micro-ordinateur. C'est une start-up. C'est-à-dire que quand Intel sort leur premier processeur, leur deuxième processeur, le 8008, il le propose à des entreprises, leur disent qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Une entreprise japonaise qui fabrique des calculettes, elle dit bah, je sais pas trop. François Jernel dit tiens, ben, je vais construire un micro-ordinateur. C'est-à-dire, je vais prendre un mini-ordinateur, je vais le mettre dans une boîte plus petite. Et ce que j'ai découvert, parce que je me suis beaucoup intéressé à ça, parce que c'est que la vision française a toujours été une vision d'artisan, de qualité, c'est-à-dire que les machines qui ont été fabriquées par ces équipes, les fameux Micral et la série d'après, elles ont été installées par exemple dans des péages, elles sont restées opérationnelles pendant 20 ans. Alors que la vision de l'informatique qui était mise en œuvre par Steve Jobs, qui était fasciné quand il a fait le Macintosh par le Minitel, qui trouvait le produit industriel le plus joli qu'il avait vu, et par une boîte de cuisine qui s'appelle Cuisinart, lui a dit « je vais faire des trucs en modèle mass market, donc avec du plastique moulé, et on va en faire des très grosses séries ». Et en fait, toute la, le schisme dans la philosophie de ce qu'est l'informatique entre ce que faisait la France et ce que faisaient les US, c'est qu'en fait, on le voit aussi aujourd'hui avec l'iPhone, c'est que finalement, on était dans des logiques, alors je vais pas dire d'obsolescence programmée, parce qu'à l'époque, un ordinateur, on pouvait le faire durer 10 ans si on voulait, mais de mass market, alors qu'en France, on avait une vision beaucoup plus artisanale et on voulait un produit beaucoup plus durable. Et malheureusement, quand la mondialisation est arrivée, en fait, ce qui a de la valeur, c'est ce qu'on produit à très très fort volume. Et donc, on n'a jamais été capable, en fait, de revenir dans la course, sachant que l'autre problème qui nous a complètement tué en Europe, c'est que tout ce qui était Walkman, télé, chaîne IFI, etc., à un moment donné, c'est devenu le périphérique d'un PC Windows ou d'un Mac. Et donc, en fait, ce qui était une industrie qui vivait d'elle-même, avec des cassettes, des produits analogiques, en fait, c'est devenu un truc qu'on connecte à un câble, il faut payer une licence. Et donc, en fait, l'Europe est devenue, en fait, un constructeur de périphériques. Et le grand drame, pour moi, de l'Europe, c'est qu'on avait le Next Generation OS qui avait été inventé en Europe, c'est évidemment Linux, et qu'on aurait pu dire, on va recentrer toute notre activité sur Linux, on va mettre en place un vrai consortium, et on construit une alternative à Windows. C'est pas ce qu'on a fait, en fait, on a laissé Windows rentrer partout, et une fois que c'était le cas, ben, c'était un peu game over.
Alors, on va revenir sur les aspects cybersécurité. Alors, quelles sont les étapes marquantes en matière d'évolution de la cybersécurité, selon toi ?
Il y en a plusieurs. Alors, je passe le passé où on était vraiment dans une logique de guerre froide. Et donc, en fait, d'une certaine manière, les groupes de hackers étaient indirectement, on le voit avec Pengo et Karl Koch en Allemagne, affaudés à des services de renseignement. Il y avait une bataille informationnelle et puis il y avait des idiots utiles dans les deux camps. Et puis aux États-Unis, il y avait des gens qui étaient très dans la performance. Les grands groupes connus qu'on connaît, Legion of Doom, etc., MOD, etc. Aujourd'hui, en fait, il y a trois principaux sujets quand on regarde la situation actuelle. Le premier, c'est que l'Internet global, qui fait qu'on est tous présents là dans ce chat, qui a fait notre vie informatique, c'est-à-dire que la technologie et le réseau est unifié, les protocoles, même si ça reste souvent en théorie, a commencé à se fragmenter quasiment 3 ans après l'ouverture. La Chine se connecte à l'Internet en 1994 et 3 ans plus tard, il crée la Grande Muraille de Chine. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que le rêve d'un Internet global et unifié n'existe plus. Il n'est plus par les régulations, il n'est plus parce que les États ont mis en place des politiques de ce qu'on appelle « cyber sovereignty », qui est différent de la souveraineté numérique, on en parlera peut-être. La cyber sovereignty, c'est la théorie en Chine et en Russie, que l'État doit être en domination totale de son réseau, de ce qui se passe, et donc oblige les acteurs américains qui travaillent à stocker les données localement, à retirer les VPN, à enlever la liste de toutes les applications susceptibles d'être utilisées par les oppositions politiques, etc. Nous, en Europe, on a créé le GDPR, DMA, DSA, etc., donc le cycle de lois européennes qui font que l'usage de l'Internet va être différent. Et aux États-Unis, on est dans une logique plutôt laxiste puisqu'on n'a jamais réussi à changer la réglementation de ce qu'on appelle la section 230 qui obligerait à la régulation des plateformes. Donc il y a ça, mais en même temps, il y a une question maintenant, c'est que les réseaux d'interconnexion sont aujourd'hui des cibles, les câbles sous-marins, possiblement les satellites. Donc ça crée en fait un vrai sujet parce que l'Europe, même si elle a accès à beaucoup de données et beaucoup de services américains, les outils de connexion à ces services sont toujours localisés aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on est complètement mis à nu en cas de coupure de câbles sous-marins ou choses comme ça. Alors ce ne sera pas la fin d'Internet, mais ce sera plutôt des désagréments, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'intensification des cyberattaques. Et cette intensification à une date de démarrage qui est le lancement du projet, ce qu'on appelait le projet Olympic Game. Quand Bush cède la place à Obama, il est tradition qu'il se rencontre à la Maison Blanche pendant 1 heure et donc il lui explique les sujets en cours et il lui dit « Il y a 2 choses que vous ne pouvez pas arrêter, le programme de drones et le projet Olympic Game ». Et en fait, le projet Olympic Game, c'est ce qu'on a appris après sous le nom de Stuxnet, c'est cette idée que comme les États-Unis étaient persuadés que les Israéliens allaient attaquer l'Iran de manière physique, ils se sont dit on va collaborer avec eux et on va faire une attaque cyber qui a réussi directement. Et donc, pour la première fois, c'est la boîte de Pandore, c'est un État attaque un autre État souverain de manière préemptive en utilisant les outils cyber hyper sophistiqués. Et quand ça s'est arrivé, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran a répliqué ensuite en attaquant.
Oui, pour les auditeurs, il faut préciser que c'est Stuxnet, hein, parce c'est que Stuxnet, les gens oui. connaissent Stuxnet.
Absolument. Le Stuxnet. Après ça, l'Iran a attaqué la société qui gère les hôtels, le Venetian et autres, et donc a créé une cyberattaque monstre. Ensuite, la Corée du Nord a attaqué Sony parce que il y avait ce fameux film où il se fichait de Kim Jong-un, The Interview, voilà, avec Seth Rogen. Et puis à partir de là, c'est devenu open box, c'est-à-dire qu'on peut on peut attaquer. Et ça, évidemment, et puis les différents hacks de la NSA, là, le Vault 7 et tout ça, fait que soudain, en fait, beaucoup de pays maintenant ont des outils d'attaque. Là, je m'intéresse vraiment aux attaques de type étatique. Il y a évidemment après les groupes criminels, choses comme ça. Je vais être très honnête, j'en parlais avec Zax, mais c'est pas mon domaine d'expertise, la criminalité. Moi, je m'intéresse plutôt à la criminalité cyber. Mais à ça, c'est ajouter une troisième typologie d'attaque. Si vous voulez, les cyberattaques, c'est on attaque les infrastructures, on hack de infrastructures, et ce que j'appelle les narrative warfare, le like war ou la guerre cognitive, c'est on attaque hack the brains, et donc on attaque les utilisateurs. Et donc ça, c'est une nouvelle forme d'attaque, je dis nouvelle dans sa forme informatique, qui a démarré au moment où on a eu peut-être en Ukraine, la première version de l'Ukraine et un peu avant en Estonie. Ça fait partie de la fameuse doctrine Gerasimov, qui n'en est pas vraiment une, qui consiste à dire on va attaquer physiquement, on va attaquer cyber et on va aussi attaquer en désinformation. Et donc ce genre d'attaque qui utilise aussi des techniques de hack, de bidouille, de aussi beaucoup d'analyse de psychologie, de bots, d'outils de dissémination, est une nouvelle vague à laquelle la plupart des services de renseignement ou les services qui sont en charge de cybersécurité ne sont pas véritablement préparés. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'en France, on a plus ou moins démarré quelque chose. Alors, il y a le PEREN qui analyse les algorithmes, et il y a la Viginum qui travaille là-dessus. Mais on sent aujourd'hui que les attaques parfois cognitives sont parfois plus intéressantes que des attaques physiques. Par exemple, si on hack une grande entreprise et que c'est révélé en général... on regarde le cours de bourse, ça ne change pas grand-chose. C'est un drame, d'ailleurs, ça veut dire que personne ne comprend la sécurité, ça n'a aucun impact sur la bourse, c'est très triste. Par contre, si vous faites du hacking, vous faites une campagne de désinformation qui laisse à croire que tel ou tel produit est toxique et en fait, ce n'est pas vrai et ça oblige la boîte à retirer les produits du marché alors qu'en fait, les produits sont parfaitement bons, mais les gens sont persuadés que ça ne marche pas et il faut quand même une action. Ça peut avoir des impacts très important. Et donc, on est en train de découvrir que le cognitif et le cyber, quand ils sont couplés ensemble, sont redoutables. Et pour l'instant, à mon avis, autant pour le cyber, on a des outils, on a des gens compétents, et il y en a partout. Est-ce qu'ils sont toujours écoutés ? Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'ils sont là. Autant sur le cognitif, on se rend compte, en fait, qu'on n'a pas encore véritablement appréhendé cette discipline. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment réagir. Par exemple, l'histoire des bed bugs, là, des punaises de lit, c'est une opération entièrement orchestrée par les Russes. Ça coûte très peu cher. Je crois que c'était M82, qui est un espèce de think tank qui travaille là-dessus, qui avait évalué le coût des opérations à quelques milliers d'euros. Mais évidemment, après, quand la télé reprend les trucs, alors là, évidemment, c'est jackpot pour eux. Et donc, ça, c'est une toute nouvelle discipline. Et moi, c'est ça qui, en ce moment, m'intéresse, c'est l'interconnexion entre le cyber plus classique et la partie cognitive, qui est en train de devenir une discipline en tant que telle et pour laquelle il faudra aussi des outils et il va falloir...
Et des scandales comme Cambridge Analytica, typiquement, est-ce que tu les mets dans ce type de catégorie ?
Oui et non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé... moi, je pense que Cambridge Analytica a un peu exagéré son application. Alors, j'avais rencontré plusieurs fois le patron de Cambridge Analytica, leur CTO. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Cambridge Analytica a été fondé par un milliardaire américain qui s'appelle Mercer, et que ce type a fait fortune dans l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le high frequency trading. Et il a compris une chose qui est critique à mon avis, et que l'on voit aujourd'hui, qu'on a vu durant les dernières élections, hein, quelles qu'elles soient, c'est que maintenant on est dans le high frequency information, c'est-à-dire que quand on va sur les réseaux sociaux, on peut entendre tout et son contraire dans la même journée.
Et où, si je peux juste me permettre, on a des plateformes type TikTok, etc., qui sont là aussi pour avoir de l'information hyper condensée, hyper rapidement, quoi. C'est-à-dire qu'en 20 secondes, on a l'essentiel de l'actualité, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu mets ça aussi là-dedans.
Mais c'est un vecteur.
C'est de l'hyperconsommation.
C'est un vecteur, parce que le vrai drame des réseaux sociaux, et c'est le cas aussi de Twitter, c'est le fameux tab for you, c'est-à-dire que la plateforme a sélectionné pour vous des contenus qui sont susceptibles de vous intéresser. C'est une véritable boîte noire, on ne sait pas pourquoi les contenus sont là, qui les a mis, pourquoi ils sont amplifiés, pourquoi telle partie qui n'est pas toujours, qui n'a pas toujours les intérêts de la France, on va dire, en tête, est amplifiée, ou tel sujet. Donc il y a effectivement, c'est un vrai sujet, mais pour venir à la question de Cambridge Analytica, ce qui est très intéressant, c'est que Facebook avait proposé aux équipes de Hillary et aux équipes de Trump des personnes pour les aider sur la pub. Hillary a préféré utiliser sa propre équipe et Trump a utilisé les équipes de Facebook qui sont avérées beaucoup plus efficaces. Et en fait, ce qui a été le vrai choc pour... il faut lire, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Cyber War, de Kathleen Jamieson, qui reprend toute la question de l'influence pendant la campagne Trump-Biden. Et elle dit qu'en fait, les médias ont eu un rôle beaucoup plus important que des acteurs comme Cambridge Analytica ou comme les actions diverses et variées des Russes. Une des choses intéressantes, quand le GRU, probablement, pirate le Parti démocrate pour leur piquer leurs emails, c'est donc un piratage par une agence étatique étrangère, les mails sont ensuite mis sur Wikileaks. Et la presse, au lieu d'utiliser la terminologie exacte, c'est-à-dire les emails du Parti démocrate volés par les services secrets russes, ont commencé à utiliser la contraction « les emails Wikileaks ». Et donc, à partir de là, au lieu de rappeler le caractère hostile du piratage, ça devient en fait un concentré de choses. Et évidemment, Trump a joué là-dessus, puisqu'il a aussi parlé des emails de Hillary Clinton sur son serveur personnel. Mais il y a une raison qu'on m'a expliqué, qu'une copine qui travaille à la Maison Blanche a expliqué pourquoi Hillary Clinton ne mettait pas ses emails sur les serveurs du ministère de la Défense. Ça semble évident, c'est que toutes les semaines, voire tous les jours, il y a un briefing du président qui s'appelle le National Security Council, dans lequel il y a le ministre de la Défense et il y a la ministre des Affaires étrangères. Si ces emails sont sur les serveurs de la Défense, et donc si toutes les PowerPoint ou tous les éléments de langage sont déjà connus par les parties adverses, elle arrive, elle est complètement à poil. Donc c'était Colin Powell qui lui avait conseillé de mettre ses emails dans un serveur personnel. Et c'est un expert en sécurité qui était un copain de son mari, donc Bill Clinton, qui a fait le service. Et entre parenthèses, ses emails n'ont jamais été hackés. Et donc, en fait, il y a eu un mélange des genres. Et à la fin, on s'est retrouvé dans un truc où on ne savait pas trop, personne n'en parlait. Les journalistes reprenaient des choses, simplifiaient des choses. Et on s'est retrouvé, en fait, à... Si vous vous rappelez, le patron du FBI dit qu'il va enquêter sur les emails une semaine des élections. Et il n'est pas impossible que ça ait fait basculer l'élection en faveur de Trump.
Et donc, est-ce que tu penses que les choses vont s'amplifier dans ce domaine ? Est-ce qu'on va trouver la parade à ces attaques désinformationnelles ?
C'est très compliqué, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que j'ai le sentiment, en fait, qu'on est dans un moment où... c'est très compliqué pour deux raisons. La première, c'est que les partis politiques, en interne, c'est le cas en France, utilisent eux-mêmes ces techniques entre eux. Donc ça, c'est quand même un problématique. C'est-à-dire que une des raisons aussi pour laquelle on a eu des problèmes pendant le Covid, c'est clairement les gens n'avaient pas forcément confiance dans le messager, ce qui pose un vrai sujet. Parce qu'on avait eu les gilets jaunes avant et plein de choses, et donc c'est très difficile pour un État de dire On se fait vraiment attaquer par les Russes ou par les Chinois ou par d'autres entités, puisque ça reste ouvert, parce qu'en même temps, on n'a pas réussi à, d'une certaine manière, à faire que, à donner cette confiance. C'est très difficile. Et puis l'autre chose, c'est qu'avec l'arrivée de l'IA, on est dans un monde où si on ne s'est pas donné rendez-vous, comme on l'a fait là, si on ne sait pas, on peut se retrouver aujourd'hui dans un monde où on ne croit plus du tout à ce qu'on voit. C'est-à-dire que finalement, les choses sont synthétisées, la voix est déjà devenue un vrai problème. C'est que l'identification par la voix, je pense que c'est mort. L'identification visuelle, on est peut-être à un an où ça va devenir très dur. Surtout sur les conférences Zoom où les gens sont pixelisés, donc en fait, on ne voit pas les défauts. Et donc, on va se retrouver possiblement dans une situation où on va avoir des agents synthétiques qui sont générés et qui vont pouvoir travailler les populations, non pas de manière massive comme on le fait aujourd'hui, où on a un peu le même message qu'on rediffuse. C'est la même vidéo qu'on voit 200 millions de fois sur TikTok, par exemple. Mais en du one-on-one, on le voit déjà avec le, vous savez, avec les scams et les emails qu'on envoie pour hook pour les gens. Il paraît que depuis que ChatGPT est sorti, le nombre de requêtes pour de rançonnage, d'emails de rançonnage au Japon a explosé parce que désormais c'est un langage qui peut être généré facilement, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc on est, pour moi, la vraie question à laquelle nous, entre guillemets, personnes qui s'intéressons à la question de la sécurité, c'est comment on arrive à maintenir de la sécurité, comment on arrive aussi à maintenir la sécurité d'un ensemble, c'est-à-dire y compris tous les employés d'une entreprise, dans un monde où il est plus possible véritablement de faire confiance à ce que l'on voit, ce que l'on entend ou ce que l'on lit. Et ça, c'est une perspective nouvelle à laquelle je pense qu'on ne s'est pas encore préparé.
Et est-ce qu'il n'y a pas un problème politique du fait que les dernières générations politiques depuis 20 ans ne respectent absolument plus le consensus scientifique ? Moi, j'ai vécu, enfin, j'ai bénéficié d'un enseignement républicain, blablabla, et je suis arrivé avec un respect du consensus scientifique absolu. Or, on a vu effectivement ces derniers temps que consensus scientifique. Enfin, je veux dire, il y a une étude qui dit A, il y en a 20 qui dit B. On donne autant de place à celle qui dit A et le politique reprend celle qui dit A si ça l'arrange et tout le monde y croit. Donc, à partir du moment où on a perdu ce consensus scientifique, c'est clair qu'avec l'IA, on est totalement perdu.
Ah, je pense que, tu as raison, je pense qu'il y a deux choses qui sont terribles. La première, c'est que ça a été aussi mon combat ces dernières années et ça m'a valu pas mal de critiques de la part des différents gouvernements, c'est que j'ai toujours pensé que les classes dirigeantes ont toujours considéré les informaticiens comme des cols bleus, c'est-à-dire comme des matières corvéables. C'est-à-dire que c'est pas un truc très sérieux, sauf quand il y a des mathématiques et que c'est de l'IA et que c'est qu'on sort des très grandes écoles. Ça, c'est un vrai sujet. Et puis l'autre chose, c'est que aujourd'hui, les gens qui, tu en parlais tout à l'heure, quelqu'un en parlait tout à l'heure, c'est on a plus d'ingénieurs, on a des gens qui ont des formations type ENA, Sciences Po. Or, dans ces formations, on peut monter très vite, très haut, en n'ayant absolument aucun bagage scientifique et technique. J'ai un copain qui donne des cours à la prépa ENA de Sciences Po. Il a posé la question, c'est quoi un algorithme ? Il y avait une personne sur cinq qui a levé la main, qui savait ce que c'était. Or, ce sont des gens qui, non seulement vont diriger le pays, mais de plus en plus, parce que je parle avec beaucoup de DSI, qui me racontent que désormais, ils ont au-dessus d'eux des énarques ou des gens qui ont des profils donc non techniques qui leur expliquent comment il faut faire leur métier.
Ah oui, mais alors ça, c'est... Ouais, moi, j'ai vu l'évolution dans les grands groupes. En tant que simple auditeur sécurité informatique à l'époque, dans les années 90, ah oui, il y a eu un revirement catastrophique.
Et donc, là, une des les questions que tu posais, c'est que, effectivement, dans le monde qui vient, j'ai toujours trouvé que les projets type informatique pour tous étaient fantastiques. Mais moi, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est qu'il fallait que les gens aient un premier contact avec l'informatique. Moi, la première fois que j'ai vu un piano et que j'ai commencé à jouer, c'est ce que je voulais faire. Et après, j'ai vu un clavier d'ordinateur et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et on a tous eu ce moment où on savait que c'était ça qu'on voulait faire. Et ce qui est, à mon avis, un gros sujet aujourd'hui, c'est que l'aspect pratique est, des choses, c'est-à-dire que les connaissances académiques, c'est bien, mais ce qui fait la valeur d'un développeur et encore plus d'un expert sécurité, c'est les heures passées devant l'écran. Il y a ça, c'est l'aspect hyper pragmatique et très... des choses, on ne peut pas, c'est pas en, même en lisant des bouquins, on n'a pas la même relation aux choses. Et c'est vrai qu'on a maintenant un environnement où les gens qui sont en commande, c'était le cas aussi dans les industries, sont complètement déconnectés de ces choses-là. Et donc ça m'inquiète parce que sur la question de la sécurité, et donc sur la question maintenant de la sécurité, ce que j'appelle aussi la sécurité épistémologique, c'est-à-dire la sécurité, la sécurisation du savoir commun qui fait que chacun d'entre nous, on vit dans la même réalité, n'est plus garantie aujourd'hui et elle est aussi livrée à des acteurs privés, extra-européens parfois, et qui n'ont pas toujours nos intérêts. Quand tu vois que TikTok en Chine ne sert qu'à faire de l'éducation et que les gens sont privés de réseau pendant plusieurs heures de la journée et le soir notamment, parce qu'ils ont bien compris que les réseaux abrutissaient, les réseaux sociaux, c'est fascinant. Enfin, on vit dans une époque fascinante.
Quelle est ta recommandation pour nous sauver sur le plan de la souveraineté et la cybersécurité pour nos gouvernants?
Il y a que trois choses véritablement importantes, je crois. La première, c'est sur le cyber, il faut un coordinateur. Moi, je pensais qu'il fallait un ministre. Pour une raison simple, c'est que...
Non, mais juste un secrétaire d'État en dessous du ministre du numérique.
Oui, bien sûr.
Mais déjà, le numérique n'a pas de ministre, alors que le numérique est tellement au cœur de la société qu'on se demande pourquoi il n'y a pas encore de ministère à part entière.
Oui, mais parce que je pense que le numérique, il faut le voir sous différentes formes. Il y a le numérique en tant qu'industrie, il y a les industries du numérique. Là, chacun d'entre vous, quand vous avez vos boîtes, vous faites partie de l'industrie numérique. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on a considéré que les startups techniques ne faisaient pas partie de l'industrie pendant longtemps. On n'avait peut-être pas les bons ministres. Et puis, il y a le numérique administratif, c'est-à-dire l'administration, ce qu'on appelait avant l'administration électronique. Et puis après, il y a tous les pans. Culture, savoir-faire, télévision, éducation, etc., sur lesquels on le touche. Donc en fait, chaque domaine est transversal. Et quand on veut un ministre du numérique, il y en a trois, à mon avis, qui ont vraiment une utilité. C'est le ministre de l'industrie numérique, donc quelqu'un qui va s'assurer que les industriels du numérique soient soutenus, comme il y a un ministre des agriculteurs, d'une certaine manière, le ministre de l'agriculture s'occupe des agriculteurs, les défend. Il faut quelqu'un qui s'occupe de l'administration et de la transition numérique pour qu'elle soit faite correctement. Et puis, sur le cyber, moi, je pense que c'est crucial parce qu'on a besoin d'un profil rassembleur qui ne laisse pas les gens un peu au bord de la route, ce qui a été malheureusement le cas de la politique actuelle, où on dit on va donner plein d'argent, mais on ne sait pas à qui, comment. Et puis surtout parce que c'est des problèmes très concrets où il faut que les gens se parlent et il y a à la fois une partie budgétaire pour donner... entre guillemets, à manger à cette industrie, mais aussi coordonner ça de manière intelligente. Parce que moi, je suis persuadé que le cyber est une industrie dans laquelle la France est possiblement dans le top 3 si elle s'en donne les moyens. Après, pour le reste, il faut dans les différents ministères des CTO. Et puis moi, j'ai toujours été pour qu'il y ait un CTO auprès du président de la République. Comme il a un chef d'état-major des armées, un président ne connaît rien à l'armée en général, donc il a un chef d'état-major, il appelle les généraux, ils organisent un plan, il dit voilà, monsieur le président, ça va se passer comme ça, comme ça. Si on avait un CTO au niveau de l'Élysée, on aurait quelqu'un qui est capable d'expliquer au président, voilà, sur les enjeux techniques, vous allez rencontrer Mark Zuckerberg, voilà les problèmes spécifiques sur lesquels vous devez négocier, etc. Qu'on ne se retrouve pas, en fait, comme ça a été le cas à l'époque avec Sarkozy, puis avec Hollande et aujourd'hui avec Macron. Ils viennent voir les gens, ils disent « Ah, c'est super, c'est génial, est-ce qu'on peut faire un selfie ?» Mais aucun projet ou aucun sujet important n'a été négocié. parce que les problèmes de régulation des réseaux, c'est aussi des problématiques de technique, c'est l'ouverture des algorithmes, l'accès aux API, la question de savoir où sont les caches, quel est le contrôle que l'on a, quel est l'accès que l'on peut avoir en cas de pour la police, pour telle chose. Enfin, il y a plein de choses qui sont des discussions où le président, entre guillemets, doit être briefé techniquement. Le président américain a un CTO. J'en ai connu deux des trois qui ont été nommés sous Obama, et une d'entre elles, c'était une ancienne de General Magic et de Google, qui était une nerd absolue, qui était excellente techniquement. Et donc, on était sûr que quand Obama parlait, là, quand il a fait son truc dans Wired, qui était top, son interview, c'est parce qu'il a été briefé par les gens qui sont excellents. Il avait aussi un super CIO qui s'appelait David Ricordon, qui est un ancien de Facebook, qui a travaillé sur les open format, sur pas mal de problématiques open source. Donc, il était en relation avec ça. Le savoir-faire technique, en fait, est tellement loin du pouvoir central qu'en fait, les gens improvisent. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on les écoute parler, on se dit, mais qui a eu cette idée? C'est normal, s'il n'y a pas un ingénieur dans la pièce au moment où ils ont eu cette idée, le résultat est celui qu'on connaît.
Ça me semble faire une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiteras ajouter le mot de la fin.
Moi je pense que dans l'histoire informatique, une chose que j'ai appris très tôt, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'informatique, notamment française, mais l'histoire du hack, pour une raison simple, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'a beaucoup blessé avec la Startup Nation, c'est qu'en gros, on nous a expliqué, avant nous, il n'y avait rien, et après nous, on a tout commencé. Or, en fait, on est dans la continuité. Moi, quand j'ai monté mes startups, il y avait des gens qui avaient monté des trucs dans les années 90, 80, 70, 60. Et en fait, on est dans la continuité d'un état d'esprit. Puis quand on vit en Europe, on est aussi dans la continuité d'un état d'esprit hacker des années 80, 90, qui s'est battu pour des questions essentielles de liberté, qui a construit Linux, qui a ouvert le web et qui l'a donné à tous. Et en fait, on est dans la continuité de cette vision. Et pour moi, c'est la chose qui est importante pour la jeune génération, parce que le futur, c'est eux qui vont l'inventer. Mais le passé existe et il faut s'en inspirer, il faut le renouveler, il faut qu'on... Et pour moi, c'est très important parce qu'on a très, trop souvent, je pense, quand on parle de sécurité ou de numérique, on parle de quelque chose de soit très abstrait ou à chaque fois, on a tendance à dire ce qui existait avant, c'est nul, ça ne marche plus. Alors qu'en fait, on peut toujours apprendre du passé et de toute façon... En mot de conclusion, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et en informatique et en cyber, c'est aussi le cas.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup, Merci. Tariq. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. We'll be right back.